On va lire ce chapitre 1 Samuel 16 ensemble. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel dit ce que l'Éternel avait dit et il alla, fit ce que l'Éternel avait dit, pardon, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oint-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alors, j'ai donné un titre à ce message de ce matin, c'est l'onction d'un berger. Parce que finalement, c'est de cela dont il s'agit. C'est vraiment l'onction d'un berger. Nous sommes au milieu de l'histoire d'Israël. Quelque temps auparavant, le peuple d'Israël avait demandé à son créateur, « Donne-nous un roi. On veut un roi comme les autres nations. » Alors, Dieu a dit « Ok ». Et il leur a donné un Saül. Mais le règne de Saül ne va pas durer à cause de son infidélité. Alors Dieu va dire au prophète Samuel, « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et là, entre en scène, donc, ce jeune David. Et on va se tourner vers cet homme que Dieu désirait pour roi. Et on voit que la Bible dépeint cet homme comme étant quelqu'un qui était selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que Samuel a dit à Saül quelque temps auparavant. Regardez 1 Samuel 13, 13 à 14. 1 Samuel 13, 13 à 14, il est dit, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et là, nous lisons, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Est-ce que David était un homme parfait ? On sait bien sûr que non. Quand on regarde toute sa vie, on voit qu'elle n'est pas sans reproche. Mais pourtant, Dieu va porter ses regards sur lui et il va lui adresser cette distinction, quelque part. Il est un homme selon son cœur. Et j'aimerais qu'on voit ce matin quel était ce cœur que Dieu s'était choisi. Parce que c'est vraiment un cœur que Dieu s'est choisi. C'est ce qu'il dit dans le texte. Hein. Tout comme lorsque le Seigneur Jésus est monté sur la montagne et qu'il s'est mis à prier pour choisir ses disciples, choisir les 12. Il s'est choisi des cœurs et il savait très bien ce qui allait se passer. Il s'est choisi 12 cœurs. Pourtant, il les connaissait tous. Et Dieu s'est choisi aussi un cœur en la personne de David. Mais Samuel, lui, il ne sait pas encore qui il est. Alors, il va se rendre à Bethléem sous le prétexte d'offrir un sacrifice pour ne pas éveiller les soupçons de Saül, le roi qui était en place. Et là, il se retrouve devant Isaïe et ses fils et on lit au verset 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel et ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et là, on prend une bonne leçon. Chacun prend une bonne leçon. Dieu dit, il dit que nous, les hommes, nous regardons souvent à ce qui frappe les yeux. C'est naturel chez nous. On va s'attacher à l'apparence. On va s'attacher au ressenti, à la première impression, parfois au curriculum vitae, au diplôme, à la capacité intellectuelle, à la capacité de s'exprimer, oratoire. Et on se dit certainement, voici loin de l'Éternel. Évidemment, ça ne peut qu'être loin de l'Éternel qui est ici devant lui. Et Dieu dit non, c'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est le cœur. Je regarde au cœur. Et je ne cherche pas une apparence, mais je cherche un cœur. C'est ça qui est important. Et Dieu se choisit des cœurs qui le choisissent et qui vont l'aimer, qui veulent l'aimer. L'homme dira d'une manière naturelle, « Mais c'est qu'un enfant, là, c'est un jeune berger sans expérience. » Comme tous ses frères, certainement, ils ont dû se dire, « Mais pourquoi l'Éternel se tourne vers le petit frère là-bas qui est juste un petit berger ?» Et nous, de la même manière, on peut se dire « Ah, mais c'est qu'un jeune, il est sans diplôme. » Ou bien on peut se dire « C'est qu'une ménagère, c'est qu'un chômeur, c'est qu'un retraité, une retraitée, c'est qu'un invalide, un malade, c'est qu'un enfant, etc. » Mais Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde le cœur. C'est ça qui est vraiment important pour lui. Et il se choisit des cœurs pour le servir. Et ça invite à se poser la question « Mais quel est mon cœur ? Quel est notre cœur ? Quel est votre cœur ? Est-ce que nous sommes des cœurs selon le cœur de Dieu ? Des personnes selon le cœur de Dieu ? Est-ce qu'il va pouvoir, oui, dire « je vais me servir d'un tel, je vais pouvoir me servir de lui ou d'elle ?» Alors on va se pencher un peu sur le cœur de ce jeune berger. Tous ses frères étaient avec Isaïe, donc avec le père, ils étaient à Bethléem. Et David, lui, pendant ce temps-là, il était à l'écart. Il était tout seul. Et on voit certainement ce qui caractérisait David de par son travail de berger. C'était un homme qui a dû goûter à la solitude. Forcément, il a dû goûter à la solitude parce qu'il était seul avec ses brebis. Il allait de pâturage en pâturage. Peut-être qu'il passait une nuit, deux nuits, trois nuits, sans revoir le village. Et probablement, David a été façonné par une vie qui était un peu en retrait, à l'écart. Et la solitude, c'est parfois quelque chose de très pesant pour nous, mais aussi d'un autre côté, la solitude a des avantages. Elle a des avantages parce qu'elle nous permet de nous rapprocher de Dieu et de mieux connaître Dieu. Et la relation que David avait avec l'Éternel, son Dieu, alors qu'il était un jeune homme, elle n'est pas née subitement quand il était loin. Vous savez, il a été loin et puis hop, comme si sa relation avait commencé avec Dieu. Non, la relation, elle était déjà avant. Alors qu'il était dans les collines avec ses brebis, eh bien David entretenait une relation avec Dieu. Il avait une vraie communion avec son Dieu. Notamment, certainement en chantant des cantiques. Hein, on le voit avec tous les psaumes qu'il a écrits. C'est impensable qu'il n'ait pas déjà fredonné, chanté, inventé, créé des cantiques avec sa harpe. On le voit ensuite avec le texte suivant, puisqu'il va se retrouver devant Saül pour jouer de la harpe et apaiser l'âme de Saül. Et certainement, au milieu des chants, il devait composer. Je me suis dit, c'est peut-être même possible que dans toutes ces heures où il a dû jouer de la harpe pour calmer l'âme de Saül, peut-être qu'il a chanté le psaume 23. Peut-être, hein? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et puis Saül qui entend ça, ses paroles inspirées, et ça, oh oui, oh ben ça l'apaise, ça lui fait du bien. C'est une parole très forte ça, l'Éternel est mon berger. Il n'y a pas de « si, alors l'Éternel sera mon… » Non. Ou « mais, j'espère ». Non. L'Éternel est mon berger. C'est fort. Et c'est ce que c'est chaque brebis qui est sa brebis. D'une manière individuelle, on sait « l'Éternel est mon berger ». C'est une parole rassurante, apaisante, qui suscite la confiance, la foi. Et on peut dire que David, c'était un homme de foi, un homme qui avait confiance en Dieu. Et il était agréable de fait. Hein? Celui qui a foi, c'est celui qui est agréable à Dieu. Celui qui n'a pas foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Et ça, c'est une des choses qui contraste avec Saül. On voit Saül, un homme qui n'a pas foi, un homme qui va précipiter ses pas, qui va s'inquiéter, se tourmenter, qui s'agite. Et puis David qui est calme, qui est confiant, qui se repose sur l'Éternel. Et il peut dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la foi, c'est cette confiance, cette certitude. Dieu est avec nous, il va pourvoir à nos besoins selon sa fidélité. Et David connaissait à la fois tous les besoins que pouvait avoir une brebis, et il savait en même temps ce qu'était l'attention bienveillante d'un berger vis-à-vis de ses brebis. Il connaissait cela. Alors il écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il se dit « Mais si moi je suis capable d'aimer mes brebis comme ça et d'en prendre un tel soin, combien plus l'Éternel qui est au-dessus de moi et qui veille sur moi ? Il va prendre soin de mon âme, il va prendre soin de notre âme ». Dans son psaume, il écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles ». Il a observé ses brebis chaque jour et il voulait que chacune soit rassasiée, que chacune soit désaltérée. Et il se dit, mais l'Éternel, finalement, il fait la même chose avec nous. Nous sommes ses brebis et il prend soin de nous comme ça. Et il le savait par expérience. Il savait qu'avec lui, on ne manque de rien. Un des grands défauts des brebis, des vraies brebis, hein, c'est parfois qu'elles sont bêtes. Hein. Elles sont un peu comme la chèvre de M. Seguin. Elles ont envie de prendre des airs et s'envoler, la liberté. Alors, elle va choisir sa propre voie. Elle va choisir sa propre vie. Et puis, elle va choisir après sa propre nourriture. Et puis, elle va se mettre à brouter un chemin desséché où il n'y a plus rien à manger. Et là, elle va commencer à éprouver la faim. Ça, ce n'est pas ce que David a vécu. Lui, il a vécu avec l'Éternel dans sa relation, au contraire. Les bienfaits d'être une brebis qui est rassasiée, qui est repue d'une bonne nourriture, qui est désaltérée par les promesses de Dieu. Parce que c'est là que se trouve le moteur de la vie chrétienne. Il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre moteur, être nourri de la parole de Dieu. Et c'est une grâce que Dieu accorde à ses brebis qui le suivent. Notez bien, il dit, c'est lui qui nous fait reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui veut nous nourrir. C'est lui qui veut nous donner des versets. C'est lui qui veut parler à notre cœur. Il veut nous rassasier. C'est sa grâce de nous permettre de trouver dans ses paroles force et encouragement, espérance et assurance pour continuer notre chemin. Et sans aucun doute, David n'a pas vécu son temps de solitude en vain. Il était nourri des paroles de l'Éternel. Ce qui fait qu'après, quand il se retrouve devant le Goliath, énorme, mais il est plein de foi parce qu'il est nourri de la parole. Alors il a foi, il a confiance dans le Seigneur. Et puis il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Peut-être on peut voir ici l'influence vivifiante, stimulante du Saint-Esprit sur sa vie. Auprès du bon berger, l'Esprit ne manque pas. L'Esprit qui soutient dans l'épreuve, l'Esprit qui console dans les larmes, l'Esprit qui va travailler le cœur, qui va relever l'esprit humain abattu, qui va pousser à la repentance, qui va renouveler des bonnes dispositions, qui va rendre la joie du salut, l'Esprit qui est à l'œuvre vraiment dans notre vie. David dit alors, « Il restaure mon âme ». Le bon berger, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de l'âme. Il la restaure. On a souvent le sentiment d'être seul. Seul face à la maladie, seul face à l'épreuve. Mais le Seigneur est avec nous. Il veut restaurer l'âme. Il veut la reconstruire. Il veut la relever. Et on n'est pas simplement un pion sur un échiquier, mais on est une personne. Et chaque personne compte. Ce que je suis compte, ce que vous êtes compte, ce par quoi nous passons, eh bien Dieu le voit. Et il s'intéresse à chacun et il veut restaurer l'âme de chacun. Parfois, on est restauré, on ne sait pas pourquoi. Peut-être d'autres le savent parce qu'ils prient pour nous. Alors, eh bien, on est restauré. On a l'impression de reprendre une bouffée d'air là. Oh Seigneur, voilà, tu m'élèves. Je me sens beaucoup mieux, je marche mieux avec toi. Et d'autres fois, peut-être on devrait prier quand on a conscience qu'on a besoin de restauration. Dire, Seigneur, restaure-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être quelque chose qui est brisé. Restaure-moi. Voilà, fais-moi revivre. Ramène-moi à toi. Le berger, c'est celui qui restaure l'âme. David dit ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et les bergers... les brebis qui appartiennent au bon berger, elles n'errent pas à droite, à gauche. Elles ne se perdent pas à droite, à gauche. Pourquoi ? Parce que le bon berger, il veut les conduire dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire dans les sentiers de la droiture, de la sainteté, de la vérité. En fait, ce qui caractérise l'enfant du Seigneur, c'est l'obéissance. Nous étions autrefois désobéissants. Et Dieu veut faire de nous des enfants obéissant. C'est ça. Et il nous pousse dans ces sentiers de la justice afin qu'on soit obéissant. Et il ne peut pas en être autrement. Parfois, il y a des brebis qui errent, qui n'en font qu'à leur tête, mais Dieu agit toujours. Il agit toujours pour ramener dans les sentiers de la justice. Pourquoi ? Parce qu'il y va de son nom. Il y va de son nom, à cause de son nom. À cause de sa gloire, en fait. Sa brebis, il ne veut pas qu'elle s'égare, il ne veut pas qu'elle erre. Il veut en prendre soin, il veut la ramener pour sa gloire, pour son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et certainement, c'est un verset qui a rassuré beaucoup d'enfants qui étaient peut-être à deux doigts de mourir, hein. Et ils ont lu cela et ça les a apaisés, ça les a rassurés. Ou bien quand on est devant une épreuve, quelque chose de difficile, et on se dit, Seigneur, bien, voilà, je vais marcher, je ne vais craindre aucun mal, je vais traverser. Certainement, les brebis de David ont été aussi face à la mort quand un lion surgissait, puisqu'il y avait encore des lions en ce temps-là en Israël. Elles n'étaient pas loin de la mort, là, hein, ou quand un ours se levait sur ses deux pattes arrière. Mais quand on a un bon berger, alors on ne craint aucun mal. Et les brebis de David, elles étaient en sécurité. Elles étaient vraiment protégées. David dit, « Quand je marche, moi la brebis, dans la vallée, c'est touchant ça. » Et on sent de nouveau la confiance de David. Il a confiance. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Et il dit, « Quand je marche, la brebis ne doit pas s'arrêter sur son chemin, elle ne doit pas se retourner en arrière, comme la femme de Lot, qui s'est retournée en arrière vers finalement ce qu'elle quittait. Mais la brebis doit marcher, elle doit avancer. Elle ne doit pas courir, se précipiter et aller dans tous les sens, mais elle doit marcher, simplement marcher au pas du Seigneur, avec lui, écoutant sa voix, et puis avancer progressivement. Et là, quand elle est conduite, quand elle est dirigée, elle n'a rien à craindre. Elle sait qu'il est avec lui, avec elle, et qu'il la devance. L'avenir ne doit pas l'effrayer. Pourquoi ? Parce que sa houlette et son bâton sont là. Sa houlette pour la ramener si jamais elle s'écarte un peu du chemin étroit. Son bâton pour chasser les ennemis et la protéger. Il s'agit de la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort, comme aux USA, hein, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et je disais quelque chose d'intéressant de Spurgeon. Spurgeon disait, une ombre ne peut pas faire de mal à quelqu'un. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas blesser. Et l'ombre d'un pistolet ne peut pas vous tuer non plus. Et c'est ici que l'ombre de la mort. Parce que pour nous, enfants de Dieu, on ne vit que l'ombre de la mort, on ne vit pas la mort elle-même. Puisque la mort n'est qu'un porche qui nous mène à la vie. On entre dans la vie éternelle. Donc ce n'est que l'ombre qui passe sur nous, et puis on entre dans l'éternité pour être avec le Seigneur. David ajoute, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là encore, c'est plein de réconfort. Hein. David était avec l'Éternel. L'Éternel était avec David. Il dit, tu es avec moi. Qu'est-ce qu'on peut craindre quand Dieu est avec nous? On n'a rien à craindre. On peut être assis, paisible. Tu es avec moi. Et on peut juger de la profondeur de la vie de David par toutes ces paroles. Il avait une vraie communion avec lui. C'est pour ça que quand il arrive devant le géant de Goliath, il ne tremble même pas. Il ne tremble même pas, il est plein d'assurance, parce que l'Éternel est avec moi. Donc si l'Éternel est avec moi, que peuvent me faire des hommes? Il dit ensuite, « Tu dresseras devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Dieu dit d'être en paix avec tous les hommes. Autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais ça n'empêche pas d'avoir des adversaires. Littéralement, dans le psaume, c'est des ennemis. Tu dresses une table devant mes ennemis. Et le Seigneur l'a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Et donc, c'est normal. On ne peut pas ne pas avoir à un moment des ennemis. Des personnes qui nous haïssent ou qui sont parfois pas d'accord avec nous. Mais il est dit, Dieu dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Et l'image, elle est parlante. Lorsqu'on a des adversaires, on s'attendrait plutôt à se tenir debout sur ses gardes, prêt à combattre ou prêt à fuir, selon. Hein. Le Seigneur a dit aussi, fuyez des fois. Et d'autres fois, il a dit, mais voilà, tenez-vous ferme. Mais il dit, Dieu dresse devant nous une table et il nous dit, mais repose-toi, mange, sois en paix. C'est réconfortant. On imagine les brebis qui sont dans le pâturage en train de manger paisiblement et puis un loup qui est en train de guetter. Mais le berger est là et il a son bâton et lui il voit le loup et le loup le voit et le loup se tient à distance. Et les brebis, eh bien, elles peuvent manger paisiblement. Il dit encore, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et là, il exprime ici ce qui est dans le fond de son cœur en tant que brebis, il dit, il est comblé en fait. Dans notre texte, en 1 Samuel 16, on lit au verset 13, que Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Et on comprend de quoi il s'agit dans cette expression, et il y a le geste aussi qui l'accompagne, où il va verser cette huile qui va couler sur la tête de David. Donc une image qui montre qu'il accorde le Saint-Esprit, en tout cas une portion supplémentaire, une onction supplémentaire, parce que maintenant il va s'approcher de la royauté. Il est préparé maintenant pour devenir roi. Mais ça ne veut pas dire que David n'avait pas déjà une onction, quelque chose sur lui. Il avait déjà vécu cette expérience d'avoir l'Esprit qui le conduit. Et même, il était connu comme cela autour de lui. Alors qu'il était dans les collines avec ses brebis, il savait ce que c'était que d'avoir l'Esprit sur lui. Ce n'est pas avec sa propre force qu'il a terrassé le lion et l'ours. Mais déjà, l'Esprit de l'Éternel était avec lui. Et c'est là l'expérience de la brebis qui va marcher avec son Seigneur. Dieu va oindre d'huile sa tête et il va être rempli, l'esprit, pour pouvoir marcher avec lui. Et ça, c'est son plan, c'est sa volonté pour nous qui l'avons reçu. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas besoin de ressentir quelque chose pour être rempli du Saint-Esprit. On pourrait se dire, mais je ne le sens pas. Il n'y a pas besoin de le sentir. C'est vrai que parfois, on peut presque tressaillir de joie parce qu'on est porté. Mais des fois, on ne ressent rien. C'est le calme plat. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit n'est pas là. Et il ne peut pas être là non plus dans sa plénitude. Être rempli de l'Esprit, eh bien, Dieu le veut, Dieu le dit. Il dit, soyez rempli de l'Esprit. Donc, il dit, c'est possible, je le veux maintenant. Et on l'est quand on reste dans les sentiers de la justice. Quand on reste proche de son berger, dépendant de son berger, alors, eh bien, il a promis et il le fait. Soyez continuellement remplis de l'Esprit, que votre coupe déborde. Finalement, c'est ce que David vivait. Il dit, loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et la coupe peut déborder, que ce soit en faisant du secrétariat, que ce soit en faisant le ménage, que ce soit dans son travail, dans ce qu'on fait, la coupe peut déborder en faisant du repassage ou en conduisant sa voiture. La coupe peut déborder sans cesse. Enfin, David termine, il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Avec une telle connaissance du bon berger, une telle confiance en lui, en sa bonté, en sa bienveillance, alors oui, il peut dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu, le Dieu de grâce, sera toujours avec moi. C'est sûr, il va m'accompagner, que ce soit dans les temps de joie, de réjouissance, ou que ce soit dans les temps d'épreuves et de difficultés, de peines, il sera avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Sa grâce va surabonder sans cesse. Et c'est ça, sa grâce m'accompagnera. Quand on accompagne quelqu'un, eh bien, on reste à côté. Sa grâce sera toujours là. Ma grâce te suffit. Ma grâce, elle est avec toi. Et l'expression, elle est belle. La grâce, elle était là au premier jour pour me sauver. Et elle va être là chaque jour de ma vie pour m'accompagner, pour me fortifier, pour me secourir. Et dans cette dernière parole du psaume, on voit aussi la connaissance de Dieu sur la fidélité, la connaissance de David sur la fidélité de Dieu, puisqu'il dit « tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie ». Il est sûr de la fidélité de Dieu, ça va durer. Et puis pour terminer, David dit Alors, eh bien, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. C'est une résolution du cœur. Il veut, hein, c'est intérieur, oui, je fais le choix d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait écho à une autre parole dans Josué. Quand Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix résolu. Eh bien, David, de la même manière, fait un choix résolu. Et dans ce psaume 23, on voit un pan de la vie de David, cette période où il était en train de faire paître les brebis de son père dans les collines de Bethléem. Et Dieu s'est choisi un cœur pour régner sur son peuple. Ce cœur, c'est quelqu'un qui a fait le choix de marcher avec l'Éternel et de servir l'Éternel. Il fait reposer sa confiance sur l'Éternel. Et c'est quelqu'un qui avait passé du temps avec le Seigneur. Dans la solitude, il s'était attaché à son Dieu. Et cette solitude l'avait aussi forgé dans cet attachement, dans ses louanges, dans son désir de le connaître, de lui parler, aussi dans ses épreuves. J'imagine la première fois qu'il a vu un lion arriver, ça doit faire quelque chose, hein. Mais Seigneur, secours-moi. Et Dieu l'a secouru. Et il a vaincu le lion. Et il a vaincu l'ours. Et ça a forgé hein, ce caractère de David. Et pourtant, ce n'est pas fini. C'était juste les prémices, une préparation. Parce qu'après, eh bien, on sait, il ne va pas accéder à la royauté tout de suite. Ça va prendre encore un bon moment. Et Dieu va continuer à travailler le cœur, hein, ce cœur qui s'était choisi. Mais Dieu avait un homme selon son cœur. Et Dieu veut assurément que nous le servions, chacun individuellement. Mais pour que ce soit possible, eh bien, il faut un cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur, il dit dans les Écritures. Et c'est souvent ça, hein. Au début, quand on vient à Jésus-Christ, on lui donne notre cœur. Parce qu'on a conscience, on se dit, Seigneur, mais je suis perdu sans toi. Sauve-moi, aie pitié de moi, on lui donne tout. Et puis après, on reprend notre cœur. Alors il est là, avec nous, par grâce, on l'a avec nous. Mais d'une certaine manière, on reprend, et puis il revient vers nous, donne-moi ton cœur. Et puis on lui redonne, et puis il y a une autre chose où on le garde, et puis après par domaine. Il y a certains domaines où on donne tout, puis il y a d'autres domaines où on dit non, ça je garde. Et le Seigneur répète, mais donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Dieu veut se trouver des hommes, des femmes qui sont selon son cœur, qui ont des cœurs pour l'Éternel. On verra par la suite encore quel est ce cœur qui appartenait à l'Éternel dans la personne de David.